Un balado de 37e Avenue.
J'ai reçu il y a quelques jours une question de Marc Gosselin. Salut Steve, j'ai écouté ton plus récent balado, puis maudit que j'adhère comme citoyen à votre projet de média social plus équitable pour nous tous. Ah, merci. Quand Meta a annoncé le blocage de nouvelles sur ses plateformes l'an dernier, le journaliste que je suis était vraiment en maudit, deux fois maudit. Pas que l'audience du web de mon média dépendait beaucoup des plateformes de Meta, mais je trouvais qu'en agissant ainsi, Meta ouvrait la porte à une kyrielle de sites de fausses nouvelles et de sites vampires, ces sites qui repiquent le contenu des vrais médias sans citer la source de leurs nouvelles. À ce moment, j'ai enlevé l'icône Facebook de mon téléphone. J'ai bien essayé de couper les ponts tout court, mais je t'avoue humblement que j'ai pas été capable. Certes, j'y vais beaucoup moins que j'y allais, mais je veux finir de tirer sur le plaster pour de bon. Avec le recul, comme papa de deux adultes et d'une ado, Facebook ne m'a rien amené de bon. C'est une plateforme qui vampirise tout ce qui nous appartient, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Je suis preneur de tous tes conseils. Oh là là! Mon Dieu, c'est une grande mission que tu me donnes, mon cher Marc. Donc, essentiellement, il me pose la question, comment faire pour quitter Facebook? Vous savez peut-être, si vous suivez ce balado, au moment de lancer l'initiative La Nouvelle Place, le premier geste citoyen que j'ai fait, c'est de quitter Facebook complètement, symboliquement et physiquement. J'ai effacé mon compte. Aujourd'hui, j'existe numériquement uniquement sur LinkedIn. Qui n'est pas le meilleur média social du monde, mais c'est le moins pire en fonction des valeurs que je défends, qui sont les miennes. Bon, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi Mastodon, il y a aussi Blue Sky, c'est quand même bien, non? Oui, mais je vous avoue que pour moi, ce serait un peu changer 4,30 sous pour une pièce. J'ai envie de bâtir un nouveau média social québécois où j'y trouverais ma culture, mon entourage, proche et éloigné, des informations qui me concernent comme citoyen, un média social basé sur des valeurs de coopération et sans but lucratif, qui ne me considère pas comme son produit. Ça, c'est mon projet. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas un réfugié des médias sociaux qui cherche absolument à se trouver un nid quelque part pour refaire sa vie numérique après Facebook. Je suis en train de fabriquer un nouveau nid qui me convient. Et la bonne nouvelle, ben, c'est que tout le monde est invité à le fabriquer avec moi, avec nous, ensemble, ce nouveau nid. Ça va être notre nid, à nous autres. Aucun autre média social actuellement propose ça. Maintenant, bon, pour répondre à ta question, Marc, comment quitter Facebook? Si j'extrapole un peu l'enjeu, si j'extrapole un peu ta question, c'est comment avoir le guts de le faire, en fait. Comment éviter cette fameuse peur de manquer quelque chose? C'est vrai, ça fait 15 ans qu'on est sur Facebook pour bien des gens parmi nous. On sait bien que c'est une fumisterie, c'est une circulaire 2.0, mais tabarnouche, quelle séduisante fumisterie! On a plongé là-dedans à fond, on a partagé nos photos de famille, des vidéos de chats, des pouces en l'air sur toutes sortes de publications, des publications qu'on a. On en a multiplié. On a une liste de milliers d'amis, de personnes. On se sent une responsabilité envers ces gens. On utilise la plateforme pour se tenir au courant de ce qui se passe chez nous, chez nos amis, chez nos collègues, ex-collègues, anciens amis d'enfance. Quitter Facebook, ce serait nier tout ça, perdre tout ça. Bon, techniquement, vous pouvez télécharger tout ce que vous avez créé sur Facebook, vos publications déjà, gardez ça sur un disque dur quelque part, hein, ça pourrait servir à votre biographe un jour, qui sait. Mais mettons ça de côté, quitter Facebook, c'est essentiellement nier des années de jardinage numérique à cultiver ses amis, ses j'aime, sa marque personnelle, ça c'était populaire il y a quelques années. C'est quitter un groupe de passionnés, quelque chose qui nous passionne. Tout ça, ça peut devenir vertigineux quand on se met à y penser. Et c'est la raison pour laquelle moi, quitter Facebook, je l'ai fait sur un coup de tête. Je me suis dit, fuck off! J'ai juste plus envie de faire partie de cette affaire-là. Facebook, ça me fait peur comme organisation. J'ai pas confiance en elle. Je trouve pas le produit bien géré, ni responsable comme entreprise. Fuck off! Je m'en vais! Ça fait 7 mois que j'existe plus sur Facebook. Je ressens aucun manque. Alors, je regarde tout ça avec amusement, en fait. Je trouvais assez ridicule, d'ailleurs, cette semaine, les gens qui paniquaient sur LinkedIn un peu partout à cause de la panne, la méga panne de Meta. Oh là là, que je m'en foutais. Professionnellement parlant, je n'ai pas perdu de revenus non plus. Pourtant, je travaille dans le monde des communications. Au contraire, j'ai plus de temps à consacrer à d'autres projets, que ce soit 1 heure par jour, 1 demi-heure par jour, c'est plus de temps en bout de ligne et ça s'accumule. J'ai ma série de romans en cours d'écriture. Je marche presque 2 heures par jour maintenant, 2 heures dans ma journée où je fais le tour du quartier à pied pour réfléchir. Réfléchir d'ailleurs énormément à la nouvelle place. C'est du temps que j'ai récupéré. Même si c'est peut-être rien, pour certains, 1 heure par jour, 2 heures, bon. Ce temps-là que je récupère, c'est mon temps. Et mon temps est beaucoup, beaucoup trop précieux pour que j'accepte d'en donner 1 seconde à Mark Zuckerberg pour qu'il puisse se faire une scène sur mon dos. Je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je ne vais pas me rappeler quand je vais être vieux puis que du temps, je vais en avoir pas mal moins. Je ne vais pas me rappeler les belles heures que j'ai passées à scroller mon fil d'actualité, à regarder du monde mettre des Mentos dans des bouteilles de Coke. Je ne vais pas me rappeler de ça. Je veux me rappeler de ce que j'ai fait avec mon temps, de ce que j'ai accompli de concret, de positif, d'inspirant. Comment je me suis réalisé? Ça revient un peu à ce que tu disais, Marc, plus tôt dans ton message. Facebook ne m'a rien amené de bon. Ben moi non plus. Je m'en suis rendu compte. Je suis parti et je ressens aucun manque. Ça, c'est ma raison personnelle. Et je suis sûr qu'on peut trouver autant de raisons personnelles de quitter Facebook ou X ou etc. qu'il y a de gens sur Facebook. Des décisions personnelles, on pourra en parler jusqu'à la semaine prochaine. Tout le monde est capable d'agir pour une raison personnelle. C'est ce qu'on fait tous les jours. On peut décider de faire une détox numérique ou mieux protéger sa vie privée. C'est pour ça que, ou de s'éloigner des coucous qui partagent des théories du complot. Ça peut être ça, notre raison de quitter Facebook. Une raison personnelle de quitter Facebook, si vous ressentez que vous avez besoin de vous en trouver une, vous allez la trouver. Par contre, il est moins naturel dans une société individualiste comme la nôtre, qui nous a drillé depuis le berceau à considérer notre nombril comme le centre du monde, d'identifier et d'embrasser les raisons collectives de quitter individuellement Facebook. Des gestes individuels qui ont une portée collective, on en pose pourtant assez régulièrement, probablement. C'est ce qu'on fait quand on choisit un produit local à l'épicerie. C'est souvent pas nécessairement un meilleur produit, mais on a l'impression d'encourager l'économie locale. C'est pas une impression, c'est effectivement ce qu'on fait. Quand on achète bio, des raisons plus environnementales. Quand on vote tous les 4 ans, c'est un temps qu'on occupe dans notre journée, 1 fois aux 4 ans, pour aller se mettre en file puis cocher un nom sur une feuille. On le fait avec fierté, parfois avec enthousiasme, parce qu'on a l'impression de participer à quelque chose de plus grand que soi. À l'époque du « je me moi », ces gestes à portée collective font appel à notre sens de la citoyenneté qui est, assez souvent, je m'inclus là-dedans, assez peu développé. Sans doute qu'il est assez peu développé parce qu'il est assez peu exercé. Et bon, il m'apparaît, moi, être essentiel pour vivre et prospérer en société d'avoir minimalement un sens de la citoyenneté. J'ai quitté Facebook pour reprendre le contrôle sur une partie de mon temps. Ça, c'est une raison. Mais j'ai aussi quitté Facebook dans un geste citoyen, collectif. La société Meta représente un pouvoir trop puissant dans notre monde. C'est ce que je crois. Je ne suis pas le seul. Cette société n'agit absolument pas pour le bien commun. Même chose pour X, Google, Amazon. Leur modèle d'affaires capitaliste s'avère très difficile à dompter, à encadrer. Ces organisations numériques géantes menacent la survie des petites cultures comme la nôtre. À l'émission Enquête cette semaine, on parlait spécifiquement de cette question. La télé déconnectée de la culture québécoise. Un reportage de Marie-Maude Denis. Je mettrai le lien là, dans les notes de l'épisode. Ces organisations numériques menacent la saine circulation des idées, nous enferment dans des chambres d'écho, menacent notre société. Tout ça pour mieux nous faire consommer encore et encore, achetez-en de la cochonnerie, bande de cave. J'ai la conviction que collectivement, il va falloir mettre Facebook dehors un jour. Facebook et les autres. Ces barbares numériques, selon l'expression d'Alain Saunier. Il va falloir s'en débarrasser. C'est un projet collectif dont on ne verra absolument pas aujourd'hui, concrètement, dans les secondes qui viennent, les retombées. C'est un projet collectif qui commence par contre par une multitude de décisions individuelles. Quitter Facebook aujourd'hui pour participer, chacun chacune, à un projet plus grand que soi. Alors, c'est ce que je te dirais, Marc. Si tu n'as pas le courage de quitter Facebook, pour toi, ben fais-le pour les autres. Pour tes enfants. Pour rendre ces plateformes et les autres qui suivront le moins viable possible. Ça, c'est un projet collectif. Allô, Steve Proulx, micro du balado La Nouvelle Place. Bon, La Nouvelle Place, vous le savez, si vous écoutez l'épisode depuis... on est rendu au 8e épisode. C'est une initiative citoyenne qui veut doter le Québec et la francophonie canadienne de son propre média social afin de réduire notre dépendance collective envers les géants numériques. On veut créer une place publique virtuelle basée sur d'autres valeurs que la recherche de profit. C'est un grand projet. Chaque personne que je rencontre depuis 6 mois me dit « Mon Dieu, que c'est ambitieux comme projet! Bravo! » Moi, je le ferais pas, mais bravo! Bon, voilà, c'est un très grand projet, tout le monde en est conscient. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail du modèle de gouvernance qu'a choisi La Nouvelle Place, parce que c'est pas un modèle, c'est pas un modèle classique, c'est clairement pas un modèle Inc., c'est pas un modèle d'entreprise privée, c'est une coopérative. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, ça va être une coopérative, mais on n'en a jamais parlé vraiment profondément. On va aujourd'hui entrer dans le vif du sujet. Si vous êtes peu familier avec les coopératives, ce n'est pas non plus une bande d'hurluberlus qui sont dans cet univers-là. Les coopératives sont au cœur de l'économie sociale au Québec. Il y en a 2800 des coopératives non financières. Donc là, on exclut les compagnies d'assurance puis les Desjardins de ce monde. Donc, en excluant toutes ces coopératives-là, il y en a 2800. Qui représente une force économique quand même importante. C'est des statistiques que je vous sors, là. 14,5 milliards de dollars. Ça crée 46 000 emplois. Ce sont aussi les coopératives des organisations plutôt résilientes par rapport aux fluctuations du marché. Bon, il y a, toujours selon les statistiques, 44,4% des coopératives qui sont toujours en service. Contre 19,5% des entreprises québécoises après 10 ans. Donc, c'est plus solide une coopérative qu'une entreprise privée classée. La coopérative est aussi un type d'organisation qui est bien de son temps. D'ailleurs, 61% des jeunes Québécois, les prochains travailleurs, les travailleurs qui entrent sur le marché, ceux qui ont de 18 à 34 ans, seraient intéressés à travailler dans une coop. Donc, je pense que notre choix, on a fait un choix moderne par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et on a fait aussi un choix qui amène quelque chose de nouveau à la table. On ne pourrait pas commencer à concurrencer Facebook ou X ou LinkedIn ou etc. en utilisant exactement le même modèle d'affaires qu'il faut proposer quelque chose de différent. On propose quelque chose qui sera sans but lucratif. Ce n'est pas... Une coopérative peut être à but lucratif. La plupart des coopératives sont à but lucratif, mais on peut décider de ne pas verser de ristourne, d'utiliser dans le fond les profits s'il y en a, ou les excédents s'il y en a, non pas pour la reverser à ses membres, mais pour l'investir dans l'organisation. C'est ce qu'on va faire. Donc, ce sera une coopérative sans but lucratif. Et j'ai parlé de membres. Les coopératives sont créées par et pour leurs membres. Donc, c'est vraiment ça la philosophie de la coopération. On se met ensemble, puis on crée une patente qui va nous aider, qui va nous permettre de réaliser un objectif ou une mission. Les coopératives, il y en a de toutes les formes, de toutes les sortes, et on va en parler aujourd'hui. On va essayer d'explorer aussi quel genre de modèle, quel genre de type de membre il pourrait y avoir dans une coopérative comme la nôtre qui créerait un média social, une place publique virtuelle. Et pour parler de tout ceci, aujourd'hui, je reçois Margot Pasquier, qui est directrice des communications de la Coop 25e heure. Margot, qui a été parmi les premières... Bonjour, Margot, d'abord.
Enchantée.
Qui a été parmi les premières à lever la main quand on a fait un peu un appel à tous pour savoir qui avait le goût de se rassembler autour de cette initiative, la Nouvelle Place. Si je te lance, Margot, sur cette question, qu'est-ce qui t'intéressait il y a quoi, déjà 4-5 mois? Qu'est-ce qui t'intéressait quand tu as levé la main au départ pour t'impliquer dans la Nouvelle Place?
La formule coopérative, déjà. Le fait que, comme c'est vraiment innovant, je trouve, de vouloir faire un média social sous forme coop, parce que ça soulève plein d'aspects qui sont, pour moi, essentiels. Puis,
je me trompe pas en disant que ça n'existe pas. Hein. Je dis toujours ça, ça n'existe pas. Moi, j'en ai pas trouvé.
Sous forme coopérative, je pense qu'il y a eu des initiatives, des volontés de lancer des réseaux sociaux spécifiques au Québec, mais pas sous la forme coop.
Pas sous la forme coop. D'accord, je te laisse continuer. Je te laisse continuer, je t'ai interrompu dans
c'est
ton flow.
mais c'est ça, tu sais, puis je pense que... Je suis relativement jeune, fait qu'il y avait aussi cette envie de représenter les personnes de mon âge dans un projet. T'sais, comme les réseaux sociaux, moi j'ai grandi avec ça. Comme quand Facebook a été lancé, je devais...
Si c'est pas indiscret, quel âge as-tu?
J'ai 27 ans.
Parce que là, tu dis que t'es 27 ans, que c'est relatif, relativement. D'accord.
C'est ça. J'ai pas encore passé la barre des 30, comme je m'estime encore...
C'est bien. Mais quand même, t'as fait beaucoup de choses. Pour une femme de 27 ans, t'as quand même un bon parcours. On va y revenir, mais je te laisse continuer sur ton flow.
Puis, ouais, c'était de dire, ben, comme ayant grandi avec les réseaux sociaux, puis ça a comme une place vraiment importante pour ma génération, de dire, ben là, on veut créer un modèle qui est beaucoup plus éthique par rapport à la gestion des données, puis je pense qu'on y reviendra potentiellement après, là, mais comme, c'est de redonner le pouvoir aux individus, aux citoyens et aux citoyennes, et là où on l'a absolument pas avec les plateformes qui existent actuellement, puis... de mon intérêt aussi pour l'économie sociale et la formule particulièrement de la coop au Québec. C'était comme important pour moi de participer à ce projet-là, puis de voir quelle forme ça pouvait prendre. Puis, tu sais, autour de la table, il y a quand même beaucoup de personnes d'expérience, fait qu'il y avait aussi cet aspect de « oh, je vais pouvoir apprendre », puis comme me nourrir de l'expérience de toutes ces personnes-là aussi.
Explique-nous ce qu'est la coop 25e heure que tu as fondée, il y a cofondée,
ouais,
il y a...
En novembre 2021.
2021, donc trois ans. Ça. Explique-nous ce que c'est cette organisation-là.
C'est une bébête bizarre dans le sens où c'est comme, on le voit comme un écosystème. C'est moi, depuis que je suis petite, puis après ça s'est plus exprimé dans mon travail, c'est que je crée des ponts entre... des groupes sociaux qui n'ont pas grand-chose à voir au départ. Puis là, étant une fille de com à la base, il y avait cette idée de comment on peut faire pour que la publicité et la communication s'impliquent davantage dans le mouvement de la transition socio-écologique qui est... Ben, c'est obligatoire, en fait, aujourd'hui, là.
C'est central.
Donc, il y avait vraiment cette question-là de comment on peut faire pour changer les manières de fonctionner dans le milieu de la publicité. Puis, il y a eu plein d'idées différentes, d'outils, de faire financer des projets de communication et de publicité grâce à de la commandite, spécifiquement pour des projets d'impact au Québec. Il y a eu le fait de créer un fonds de solidarité pour financer aussi ces outils-là, de faire de la publicité mutualisée. C'était vraiment de dire... on a plein d'opportunités. La phrase que je répète le plus souvent dans ma vie, c'est « tout est possible ». À partir du moment où on s'autorise à y penser, comme on peut tout faire. Puis, les gens qui font partie de la coop sont des travailleurs autonomes qui ont une expertise en communication et en publicité. Puis, on s'est rassemblés pour se dire « ok, tout seul, on peut pas monter cette montagne-là. Là, c'est comme trop vaste et trop grand. Donc, il faut qu'on se rassemble là-dedans. » Donc, la forme coop était aussi de dire « on n'est pas dans un modèle d'agence classique. On a tous une voix à défendre, puis il faut qu'on se retrouve en tant qu'individu dans le mouvement collectif qu'on est en train de bâtir. »
OK. Donc, concrètement, là, cette agence compte 5 membres.
À date, oui.
Qui sont, bon, toi, qui sont les autres membres? Tu dis que c'est des travailleurs autonomes,
ouais.
Donc ce sont des graphistes.
Il y a Elora qui est cofondatrice avec moi, qui est directrice artistique. On a deux graphistes. Il y a Janin qui est concepteur-rédacteur senior, qui a un gros background en publicité au Québec. Puis on travaille, c'est pour ça que je dis qu'on va, ça va bientôt évoluer aussi. On travaille avec une vidéaste qui est spécialisée dans les projets d'impact.
Okay. C'est quoi ça? Mais tu as fait trois fois que tu nous dis projet d'impact.
Projet d'impact,
pour
c'est
le commun
vaste,
des mortels, des mortels, qu'est-ce que c'est un projet d'impact?
Un projet d'impact, c'est un projet qui va amener les consommateurs et consommatrices finaux à se questionner sur leurs habitudes de consommation. Okay. Qui va proposer une alternative, en fait. Mettons... on voit les publicités qu'on voit majoritairement dans l'espace publicitaire, c'est publicité pour le VUS.
Mmh.
Où on est en train de rouler en pleine nature, ça a l'air vraiment le fun, mais niveau d'impact sur l'environnement, c'est pas terrible, terrible. Puis, nous, notre but, c'est de dire qu'il y a des alternatives au fait que le Québec est un grand territoire, donc on peut pas se passer de la voiture. Par contre, il y a des organismes qui travaillent sur des solutions de mobilité durable. Donc, nous, ça serait de mettre en lumière ces projets-là qui proposent des alternatives à ce qu'on connaît depuis des années.
Dans l'ambition que ces projets-là soient peut-être aussi visibles
Exactement.
Que le VUS pour se promener en nature. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la tête des gens, être un amoureux de la nature, c'est avoir un VUS.
Mm-hmm. C'est
Parce
ça.
Qu'on n'a pas vu d'autres modèles.
Exactement.
Donc, c'est ce que je comprends. Bon, là, on a pris l'exemple du VUS, mais j'imagine qu'il y a
c'est plus un large
million
que
d'autres
ça.
Exemples. Donc, vos clients sont généralement peut-être des organismes qui amènent d'économie sociale. J'imagine que ce sont...
Il y a beaucoup d'économie sociale.
Honda viendra pas chez vous, là.
Il y a beaucoup d'économie sociale, mais il y a aussi des formules, des entreprises incorporées.
Okay.
Parce que, en fait, la formule OBNL et Coop sont pas souvent recommandées par les firmes d'avocats. Par les incubateurs, de plus en plus, mais comme il y a eu un... Je dirais que la transition est en train de se faire, de mm-hmm. dire, OK, on peut avoir un modèle d'affaires solide en étant un OBNL et une coop. C'est parce qu'avant, c'était vraiment perçu comme...
Selon les statistiques, semble-t-il que les coops durent plus longtemps que les
Exactement.
Inc. Donc...
Oui, mais parce que c'est la force de l'intelligence collective. Mm-hmm. C'est que tu mets vraiment tous les cerveaux concernés à dire, OK, là, c'est la problématique qu'on rencontre, comment on fait pour passer au travers. Puis c'est... moi, je pense pas qu'il y a que les dirigeants d'une structure qui ont la bonne solution.
Je pense pas non plus. Je comprends pas comment on peut penser ça, en fait.
Ben surtout que quand tu passes dans une position de gestion, t'as moins... t'es plus trop sur le terrain. Donc, t'as une réalité qui commence un peu à t'échapper, puis c'est juste ton agenda qui fait ça, tu sais, c'est pas mmh. une mauvaise volonté,
non,
je pense.
Aujourd'hui, on est dans une sorte de mythe du dirigeant vedette, là,
mmh.
que, tu sais, honnêtement, là... Vraiment, là, on croit encore à ça, là, on a le culte de la personnalité. Mm-hmm. Ce serait le temps qu'on sorte de ce modèle-là. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis un vieux, relativement jeune, mais je suis quand même vieux. Mais on s'entend sur ce point-là. Je veux t'amener sur quelque chose pour qu'on revienne un petit peu à la nouvelle place, parce que hier, sur LinkedIn, tu as fait une belle publication qui a eu quand même pas mal de rayonnement. Et j'aimerais que tu nous rappelles l'histoire des coopératives funéraires, parce que je suis certain que personne ne connaît cette histoire-là. Moi, je ne la connaissais pas.
Ce n'est pas l'histoire la plus sexy, parce qu'on parle de coopératives funéraires. Là, c'est comme un moment le fun dans la vie des gens. Et justement, tu sais, il y avait, dans les années 40, en fait, c'est qu'il y a eu... comme je l'ai dit, le monopole du marché était occupé par deux grosses entreprises américaines. Puis, à ce moment-là aussi, il y avait, c'est à peu près les prémices du marketing, puis de comment on peut faire pour gagner plus d'argent facilement. Donc, là où au départ, t'achetais juste un cercueil, au fur et à mesure, ils ont rajouté tous les systèmes d'embaumement, tous les rituels qu'on met autour de ça pour dire au revoir aux personnes qu'on a perdues.
Ça devenait cher de mourir.
Exactement. Puis l'enjeu, c'est que donc à Montréal, c'était pas trop visible parce que la population était plus riche, plus aisée à ce moment-là. Mais en région, il y avait c'est des personnes qui avaient pas tant d'argent, fait que ça coûtait vraiment cher. Puis comme t'en venais à devoir vendre beaucoup de tes biens pour pouvoir offrir une sortie décente aux personnes que t'as perdues. Mmh. Et en fait, ça vient de l'Église au départ. C'est que c'est il me semble trois ou quatre curés qui se sont rassemblés, qui ont dit « c'est pas possible que ça se passe comme ça, faut qu'on puisse permettre à nos gens, en fait, à la paroisse, de... ben, » c'est ça, qu'ils aient pas besoin de vendre un rein pour payer des services funéraires. Et là, il y a eu l'idée de « si on se met ensemble, Bah, on peut créer ce système-là. C'est la force du groupe qui va nous donner les moyens financiers, en fait. Parce que individuellement, bah, chacun, mettons, a son 50 pièces. Mais si on se met tous ensemble, on va avoir le 800, 700 pièces dont on a besoin. Puis, donc, c'est un peu comme ça que le modèle a évolué, enfin, est arrivé et a évolué par la suite, de dire, bah, on mutualise de l'argent pour pouvoir offrir un service et éviter que le corps de ton mari ou de ta femme finisse dans la fosse commune et que tu n'aies aucun endroit pour te recueillir.
Et ça existe encore aujourd'hui. Je veux dire,
Oui.
la plupart des compagnies, je pense, sont des coopératives funéraires, si je ne
Ils ont
m'abuse.
développé un modèle d'affaires qui est incroyable. Et en fait, c'est vraiment la force du groupe c'est que ils ont commencé en faisant ça avec l'argent qu'ils avaient récolté des citoyens, en fait. Ils ont acheté une première compagnie, une deuxième, puis une troisième. Et maintenant, tu sais, c'est une fédération, là, les coopératives
C'est
funéraires. C'est
énorme.
comme, c'est énorme. Puis dès qu'il y a un magasin, de services funéraires qui se déclare comme en faillite ou annonce qu'il va mettre la clé sous la porte, la fédération dit, OK, nous, on va l'acquérir, puis on va le remettre dans la coopérative. Puis c'est une coopérative, soit une nouvelle coopérative qui peut être créée, soit une coopérative existante qui peut récupérer. Donc il y a vraiment un esprit de mutualisation et de dire, on sert le groupe ensemble. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que les coopératives funéraires sont pas si implantées à Montréal, parce que le besoin ne vient pas de là. En région, c'est
Mais moi, je
vraiment.
viens de la région, puis c'est ce qu'il y a.
Ils sont super forts en région, mais à Montréal, ils ne sont pas tant présents.
Bon.
Donc, il y a vraiment aussi il y avait un vrai besoin de. Ça répondait à une problématique qui était en lien avec la dignité des personnes. Tu sais, on parle d'humains qui perdent des gens, là, c'est grave. Puis de dire, j'ai pas les moyens de les honorer convenablement. Et là, ça a été comme, OK, on se regroupe, on se met ensemble. Et le problème était tellement fort qu'il fallait que la communauté se l'approprie. Mais si tu prends un autre exemple comme la coopérative Desjardins, une des raisons pour lesquelles ça a été créé au tout, tout, tout début, c'était pour offrir des services financiers accessibles, puis de dire,
Aux Canadiens français qui avaient
c'est
de la
ça.
difficulté, agriculteurs canadiens français qui avaient de la difficulté à avoir des prêts auprès des
Exactement.
grandes banques anglaises.
C'est vraiment et c'est pour ça que je trouve qu'au Québec, je suis française, ça s'entend pas du tout, mais
Ça s'entend bien, non?
le mouvement de l'économie sociale et particulièrement le mouvement coopératif au Québec
Très
est
fort.
très, 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 très fort. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est la seule province au Canada à avoir une loi sur les coopératives.
Ah oui? Ah, je sais pas,
C'est,
je
il y, y a une
pose la
loi,
question, je l'ignore.
il y a une loi fédérale
OK.
qui est relativement large. Et la loi au Québec resserre un peu plus ce cadre-là et a vraiment des directives qui font que, à mon sens, bien, pourrait y avoir un multiple débat sur le sujet, là on n'est pas tous d'accord, mais ça permet de défendre vraiment les valeurs coopératives.
Moi, je trouve que la coopérative, dans la culture québécoise, s'inscrit très bien comme modèle d'affaires. On n'est pas, nous, comme aux États-Unis, il y a beaucoup le mythe du ce qu'on appelle le self-made man, l'American Dream, l'homme qui part de rien, qui bâtit tout de ses mains pour faire un empire. On n'a pas ces rêves-là au Québec. Oui, il y a des gens qui l'ont peut-être, mais ça colle pas. On est vraiment un peuple de grégaire. On aime être en groupe, on aime faire des choses ensemble, on aime se rassembler, on faisait des veillées, c'est ce qu'on est comme peuple. Je pense que le modèle coopératif, moi, depuis que je découvre ce modèle-là, tu sais, moi, je suis en affaires depuis une quinzaine d'années quand même. Inc., self-made man, je m'imaginais faire un empire, mais depuis que je découvre ce modèle-là, je vois à quel point c'est cohérent avec la population avec laquelle on est ici au Québec, enfin. Revenons un petit peu à la nouvelle place, si tu veux, on va en parler, puis je veux qu'on parle de ça, puis que je veux qu'on parle d'une autre initiative que tu as lancée. Le modèle de la nouvelle place, comme je l'ai dit, se base sur donc une coopérative qui sera très, très probablement une coopérative de solidarité. Et là, ce qu'on a fait cette semaine comme travail, c'est un gros travail parce qu'il faut essayer d'imaginer des membres. Une coopérative est là par et pour ses membres. Qui pourraient être les membres d'une coopérative qui gérerait un média social? Bon, L'idée générale, c'est d'avoir quand même, si c'est une place publique, c'est d'avoir quand même du public. C'est-à-dire que...
C'est le principe.
on s'imagine que la population, moi je dis toujours, je fais la métaphore, on est en train de créer un porte-voix. Qui va tenir, qui va avoir la main sur le porte-voix? Donc c'est sûr que OCA, comme membre, il devrait y avoir beaucoup de représentants de la population. Et aussi, ben, sauf que c'est ça, le problème, ben, c'est pas un problème, mais la situation qu'on a, c'est qu'une coopérative doit générer ses revenus auprès de ses membres aussi. Je pense que c'est
50%.
À 50%. Vous, comment ça fonctionne à la coop 25 heures? C'est 25e heure, c'est les clients passent.
Comment, okay. Nous, on est une coopérative de
comment
solidarité.
Comment vous envoyez vos factures? C'est ça, ma question.
Par courriel. Mais non, on est une coopérative de solidarité. Donc, moi, je suis membre travailleur.
D'accord.
Puis, les autres sont des membres producteurs.
OK.
Car travailleurs autonomes. On a choisi de ne pas avoir de membres consommateurs, ce qu'on pourrait faire parce que, en fait, la porte est ouverte à partir du moment où tu es une coopérative de solidarité. Mais là, nous, c'est que la coop, en fait, garantit, protège ses membres dans les mandats qu'on effectue et leur garantie d'avoir des mandats qui sont en lien avec justement l'impact au Québec.
Okay.
Dans les clients, en fait, on a choisi de ne pas les intégrer dans le membrariat parce que il y avait une question de la gouvernance, c'est un gros sujet là. Quand tu pars en coop, c'est à quel point plus tu as de membres, plus il y a de voix, plus les intérêts de tout un chacun sont aussi différents. Puis, il ne faut pas oublier que l'individu se considère vraiment beaucoup dans ces modèles-là aussi. C'est chacun va vouloir défendre ses intérêts, puis c'est normal, puis c'est le but. Donc là, nous, on s'est dit, OK, nous qui comprenons les intérêts de la communication et de la publicité, c'est les gens qui y travaillent. Les entreprises, quand bien même elles peuvent avoir des pôles de communication, la plupart des personnes que je rencontre, en fait, arrivent avec une solution qui n'est souvent pas la bonne. Puis, il y a ce travail d'éducation-là qui est à faire aussi. Mais c'est... Donc, c'était comme un peu délicat de les intégrer dans ce modèle-là. On peut avoir des membres de soutien. On a choisi de ne pas en avoir encore parce que c'est ça. Il y avait cette idée de étape par étape, là, se consolide. Mais la porte est ouverte.
Si dans une coopérative, il y a cette obligation que 50% des... C'est quoi? C'est des revenus ou des activités?
Alors, en fait, c'est que ça dépend de ta formule de membre.
D'accord.
Donc nous, c'est des membres producteurs, ça veut dire que 50% de nos frais de production doivent être liés à des dépenses avec les membres producteurs.
OK.
Si on fait appel à des pigistes, c'est des dépenses en dehors de ça. Et on a l'obligation de faire affaire avec nos membres.
OK. Donc j'ai un client qui arrive.
Oui.
On a Greenpeace qui vient chez vous, n'importe quoi, faire une campagne X. Vous devez, à 50%, la moitié du temps, faire affaire avec les 4 membres qui sont dans la coopérative en ce moment.
Membres travailleurs et membres producteurs.
Et toi, les 3 autres. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay.
C'est ça.
C'est sûr que nous, ce serait un peu différent. C'est-à-dire que nous, on imagine des membres consommateurs. Donc, qui seraient sans doute... C'est-à-dire que, oui, dans la nouvelle place, là, au jour 1, les gens vont pouvoir y aller sans devenir membre. On va avoir plein de choses qu'on va pouvoir faire dans cette plateforme-là, que ce soit publier des messages, des publications, créer des publications, les commenter, un peu comme on fait ajouter des amis, se créer un compte. Bon, tout ça, c'est gratuit. On ne veut pas complètement être différent de ce qui existe déjà dans le marché. Mais il y a des super utilisateurs. Il y a des gens, moi, je les appelle les voix de la société, des gens qui sont... Je ne sais pas si c'est le cas dans ton fil d'actualité, dans le mien, en tout cas, c'est le cas. Il y a un 10% de gens à qui je suis abonné qui parlent beaucoup, qui ont des choses à dire, qui sont des leaders d'opinion, si on veut. Ces gens-là peuvent avoir un intérêt plus marqué pour devenir membre d'une plateforme comme ça qui leur permet, d'un porte-voix, d'une place publique. Ce seraient ces gens-là qui seraient nos membres consommateurs. Pas nécessairement parce qu'imagine, s'il y a 100 000 personnes, 100 000 membres, je veux dire, nos assemblées annuelles, c'est Lollapalooza, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens.
On est pas mal 8 millions au Québec, il me semble. Fait que si t'as tout le Québec qui devient...
tout le Québec est là-dessus, ça n'a aucun sens. Par contre, si on se restreint à un noyau de membres qui sont quand même très représentatifs de la société, si on pourrait quand même avoir 5 000, 10 000, 15 000 membres, ça fait quand même plus que tous les journalistes au Québec réunis. Là, donc, ça fait quand même une bonne quantité de gens qui seraient, donc, moi, ce que j'appelle les voix. Donc, okay. c'est les voix, ils sont là pour animer la nouvelle place et avoir sans doute des privilèges. Un privilège auquel on pense, ce serait un droit de vote. Un droit de vote, évidemment, à l'Assemblée générale, mais un droit de vote dans la plateforme. Par exemple, je consulte la plateforme, je peux voter une fois sur une publication que j'aime aujourd'hui et ça influence l'algorithme, par exemple.
OK.
Ça pourrait être une idée. Si on a 5000 personnes, ça fait en sorte qu'on a un algorithme qui n'est pas entièrement dépendant des goûts de tout un chacun, mais qui est dépendant d'un pool de 5000 personnes qui se disent aujourd'hui, la nouvelle, la publication qui est la plus importante à lire au Québec, c'est celle-là. Puis imagine qu'on a 5000 personnes qui font ça. On sort de la chambre d'écho, peut-être. Mm-hmm. C'est une idée. Tout ça ne sont que des idées. Mais
c'est vraiment intéressant, en fait, parce que je ne l'avais pas envisagé de cette manière. C'est que quand j'avais vu des individus, je pensais vraiment à comme le grand public. Puis là, j'étais comme, à quel point on retombe dans un modèle qui est très similaire à celui de Facebook. Puis je trouve
Je pense que ça va être difficile, de toute façon, concrètement, de faire comprendre au simple individu qu'il doit devenir membre d'un média social.
Ça, on pourra s'en reparler. J'en ai parlé avec des personnes de à peu près mon âge, là, savoir si elles seraient intéressées à comme, devenir membre, puis payer une participation. En tout cas.
Par curiosité, qu'est-ce que tu disais?
Oui, genre sur un système un peu comme Netflix, s'il y a une garantie au niveau de la protection des données, et il ne faut pas que ça soit plus de 5 pièces par mois.
C'est à peu près ce qu'on entend. C'est à peu près ce qu'on entend.
Mais c'est que là, en fait, l'enjeu de départ qui, pour moi, puis corrige-moi si je me trompe, était les médias au Québec n'ont plus l'espace, en fait, pour faire rejoindre leurs nouvelles au grand public.
Sur Facebook, oui, effectivement.
C'est ça.
Il y a ça.
Et que... Pour moi, ça, c'est dramatique parce qu'il y a cet aspect de s'il n'y a plus de diffusion de nouvelles, de quels que soient les bords et les horizons, là, c'est pas mal vers ça qu'on se dirige quand il y a une dictature. Fait que...
Non, absolument. C'est pour ça qu'on pense que les voix, mm-hmm. les personnes qui vont être les plus intéressées à devenir des membres, on espère qu'il va y avoir une grande quantité de journalistes là-dedans. Mm-hmm. Les gens dont le travail est de faire entendre l'information comme ça, il y en a plein. La décision qu'on a prise, c'est on ne va peut-être pas aller tout de suite solliciter de grands médias. On va aller solliciter des individus qui sont des voix dans la société.
Okay.
Parce qu'on peut parler de journalistes, on peut parler d'élus, on peut parler de chercheurs universitaires, il y a plein de gens qui prennent la parole publiquement chaque jour. Ils le font dans les journaux, dans les lettres aux journaux. Il y a plein de leaders d'opinion dans des OBNL, des porte-paroles de cause. Quand on commence, des artistes, des auteurs, quand on commence à faire la liste des gens qui prennent la parole publiquement, ça fait quand même pas mal de monde. C'est ces gens-là qui seraient le cœur de la gouvernance de cette coopérative.
Okay. Donc, si je résume... Ouais. C'est que dans les bénéficiaires seraient le grand public, dans le sens où ils auraient accès à de l'information et avec cette idée que tu avais amenée, que je trouve vraiment intéressante, de ça, avec la nouvelle de la journée qui, genre, c'est
celle-là. On espère que le fil de nouvelles va être utile.
C'est ça.
Vraiment, c'est ça.
Ensuite, tu as ces fameux leaders d'opinion, ces voix dont tu parles, qui, elles... peuvent publier et peuvent et justement influencer l'algorithme pour mettre de l'avant les nouvelles pertinentes slash intéressantes, dépendamment de ce qu'on veut en dire.
Ce serait le lien d'usage qu'ils ont avec la coopérative. Ils ont besoin d'un lien d'usage. Si on est consommateur, ce serait ça.
OK. Mais c'est que tu dois servir une communauté, en fait. C'est que la coopérative existe pour supporter, protéger, faire grandir ses membres. Il y a vraiment cette notion-là. Puis dans comment tu le décris, je trouve ça vraiment pertinent que ça soit... C'est ça, ces personnes qui ont des choses à dire et qui sont reconnues aussi par le public comme des personnes intéressantes et pertinentes avec des idées bien ficelées, etc., là, qui font avancer le schmilblick en bon français.
Oui.
Et après, cependant, tu sais, il y a toujours l'aspect du modèle d'affaires, en fait, de comment ça vit.
Bon, ben c'est sûr qu'on ne s'imagine pas que les cotisations de ces membres mm-hmm. utilisateurs vont être en nombre suffisant pour payer la plateforme, mm-hmm. l'opération de la plateforme. C'est pour ça qu'on a d'autres membres. Nous autres aussi, on serait une coopérative de solidarité. On aurait donc ces membres consommateurs, utilisateurs. Dans le langage coopérative, on appelle ça des membres consommateurs, mais disons que le mot porte à confusion. Mm-hmm. C'est des utilisateurs, des super utilisateurs de la plateforme. On aurait aussi des membres producteurs qui, eux, seraient... Là, on ne s'entend pas exactement ce serait qui. Ce serait des organisations qui viendraient faire des affaires dans la plateforme. Un peu comme le modèle des médias. Le modèle des médias est un peu bicéphale. On a d'un côté les journalistes qui produisent l'information et on a l'équipe des ventes qui vend de la publicité ou des abonnements pour payer le travail des journalistes qui font faire en sorte que ce média-là mm-hmm. fonctionne. Dans notre média social, ça nous prend aussi ces deux aspects-là. On ne demandera pas aux gens qui publient de l'information de payer en plus pour payer toute la patente. Ça nous prend une équipe des ventes, mm-hmm. si on veut. Ça nous prend des membres producteurs qui, eux, ont un intérêt économique dans cette plateforme-là.
Qui rejoignent du public par de la publicité éventuellement.
Pourrait être de la publicité, ça pourrait être des abonnements. Et là, c'est là que je dirais que sky is the limit parce qu'on a beaucoup d'idées. C'est un peu le casse-tête qu'on a en ce moment. C'est-à-dire qu'on veut avoir au sein du CA une gouvernance qui est composée à majorité de voix de la population, d'organisations sociales qui ont un intérêt économique dans cette plateforme-là, et de membres de soutien, parce que nous, on aurait des membres de soutien qui seraient, eux, toutes les organisations qui sont non commerciales. Par exemple, des associations, des fédérations, le conseil de la coopération là, avec qui on travaille beaucoup, Hebdo Québec, par exemple. Ces genres d'associations-là qui sont intéressées à ce que cette plateforme existe, mm-hmm. cette plateforme québécoise existe, l'Office québécois de la langue française, par exemple. Ils deviennent membres de soutien, ils vont avoir peut-être un ou deux sièges sur le CA. Ils sont là pour soutenir cette organisation qui, quand même, réalise une mission sociale. Mm-hmm. Donc ça, ce serait nos membres de soutien. On pense partir avec peut-être pas ces trois catégories de membres-là. Ce serait peut-être consommateurs, membres de soutien, puis on ajouterait les membres producteurs un petit peu plus tard quand on va avoir un intérêt économique.
À la création de la coopérative, il n'y a rien qui nous empêche de ne pas intégrer cette catégorie de membres-là. Elle peut être écrite.
J'ai entendu qu'il fallait qu'il y ait quand même un représentant, non?
En fait, c'est que tu peux nommer... Soit tu laisses le siège vacant, mm-hmm. parce que la catégorie est vide. Okay. Nous, c'est ce qu'on a fait pour les membres de soutien.
Okay.
Soit tu nommes une personne représentante, donc qui fait partie de tes membres utilisateurs. Mm-hmm. Tu dis, toi, qui se porte volontaire pour être représentant de la catégorie producteur? Et à partir du moment où tu as un membre producteur, là, ça s'échange.
Ça, c'est un bon mécanisme qu'on pourrait faire, ouais.
Mais parce que c'est pas très compliqué de changer un contrat de régie interne. Moi, l'écueil que je vois, c'est parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est que le fait de pas le marquer donne l'impression que la porte est fermée.
OK.
Alors que le fait de c'est écrit, on a la possibilité, on peut se diriger là-dedans, puis on s'épargne quand même une gymnastique administrative à un certain moment. Ça, c'est comme, OK, l'objectif, c'est de se diriger là-bas, mais pas maintenant, peut-être dans 2 ans. Mais la porte est ouverte.
Parce que, tu sais, il y a des organisations qui vont avoir un intérêt économique dans cette plateforme-là, mais la plateforme ne générera sans doute pas beaucoup de revenus avant un certain mm-hmm. plateau. Là, c'est-à-dire qu'il va falloir notre premier gros travail, c'est de pousser les gens à déménager leur bagage numérique d'une mm-hmm. plateforme à une autre. C'est mm-hmm. énorme. Mm-hmm. On ne peut pas commencer tout de suite à s'imaginer comment est-ce qu'on va faire de l'argent avec ça. Il faut juste commencer à comment est-ce qu'on va amener des gens à venir utiliser cette plateforme-là. Ça, c'est l'objectif numéro un mm-hmm. qu'on a tous. Donc, c'est pour ça que je me dis, membres producteurs, on en a besoin. On sait qu'on mm-hmm. en a besoin, mais ils ne seront sans doute pas au jour un dans la priorité parce que
mais c'est qu'en fait, si l'opportunité se présente, si demain tu as une structure qui serait intéressée à devenir membre producteur, tu n'as pas besoin de lui dire attends.
Ouais.
Tu peux lui dire ok, tu es la première, je te propose que ça soit avec toi qu'on explore la manière dont ça va se passer.
Okay.
Puis tu peux devenir membre. C'est ça, la porte est ouverte.
Excellente idée. Je garde ça dans ma petite poche en arrière. Globalement, qu'est-ce que tu en penses de ce modèle-là, ce que je viens de te présenter, les trois types de membres, coopératives. C'est une coopérative sans but lucratif, là. On va tout de suite dire, il n'y aura pas de ristourne, là, bien sûr. S'il y a de l'excédent, on va l'investir dans la plateforme pour l'améliorer, c'est vraiment ça.
Oui, puis un outil technologique...
on va utiliser tous les excédents, ça c'est clair, ça, on ne cherchera pas.
Je pense que c'est un beau modèle que... Faut être... Il va falloir être extrêmement précis dans la définition des membres. C'est de qui est-ce que tu acceptes comme voix ? Comment tu définis une voix ? C'est qui là ? Est-ce que c'est sur quels critères quantitatifs que tu te bases ? Il va y avoir un peu de qualitatif, mais comme, pour moi, c'est l'écueil que je vois, il est là.
Okay.
Dans la configuration et le comment tu me l'as expliqué, ça fait vraiment du sens. Puis ça répond au modèle coopératif. C'est comme, c'est ça, on amène, on répond à un besoin. Puis on sert une communauté.
Je veux terminer avec toi, Margot, pour parler de l'initiative Vos pubs, mon droit. Donc, tu m'as envoyé un courriel, tu l'as envoyé à plein de gens, là, j'imagine, ce courriel-là pour nous demander si on veut soutenir cette initiative-là, qui est, donc, si je la résume, l'ambition, c'est de créer un fonds de financement coopératif dédié à la communication et à la publicité des projets d'impact québécois. Qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça?
C'est vraiment un sondage d'intérêt. C'est que, en fait... Nous, on a, dans la coop 25e heure, on a un fonds qu'on appelle le fonds 10%, parce qu'il est constitué de 10% de nos revenus bruts annuels. Et il nous permet de financer des projets d'impact qui n'ont pas accès à des subventions pour X ou Y raisons, et qui ont, c'est ça, qui méritent d'avoir de la visibilité selon notre matrice décisionnelle. Et en fait, c'est que ce montant-là dépend de notre chiffre d'affaires. Et qu'on a quitté les agences pour ne pas être pressés comme des citrons. Donc, si on veut augmenter le fonds, à date, ça suppose qu'il faut qu'on augmente considérablement notre chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas envisageable. Donc là, la question, c'était comme comment on peut avoir un fonds conséquent, parce que ça coûte cher la publicité, là. Puis l'idée n'est pas d'affamer tout un secteur d'activité. C'est comme, tu sais, on va changer les choses au fur et à mesure. C'est de se dire comment on peut... C'est ça, créer un fonds qui soit suffisamment conséquent pour, par année, soutenir plus qu'un ou deux projets.
Est-ce que la réponse, jusqu'à date, c'était, je pense, ça se terminait aujourd'hui, ce sondage?
Tout le monde est intéressé.
Tout le monde est intéressé.
Ouais, 100% de oui, 69% de on est intéressé à le financer sous condition.
OK.
La condition principale étant la gouvernance. Parce que le gros enjeu... C'est que je rencontre depuis que j'ai lancé ce sondage-là, c'est que les gens sont comme publicité et finance, comme vous mélangez deux univers qui n'ont rien à voir et qui fonctionnent très différemment. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi dans la vie, c'est tout est possible. on peut laisser. En fait, si je l'essaye pas, si je pose pas la question, je n'aurai jamais la réponse. Donc, je sais pas encore ce qu'on va faire de ça parce que c'est un gros morceau. Nous, ça reste que 25e heure et rentre tout juste dans sa troisième année d'existence. Donc, c'est encore un bébé qui a besoin de manger. Donc, tu sais, on va comme faire grandir le bébé un peu. Puis, mais il y a toujours cette histoire de vos pubs, mon droit. Parce que, tu sais, je parlais tantôt du fait que les gens ont le droit à l'information. Puis, ça rejoint vraiment le sujet de la nouvelle place aussi. Tu sais, ils doivent connaître ce qui se passe. On peut pas... Depuis le début, on tape sur les doigts des consommateurs en leur disant « Ouais, vous faites pas le bon choix, vous mangez pas responsable, vous êtes pas avec les producteurs locaux, vous faites pas ci, vous faites pas ça, etc. » Alors, il y en a qui le font en âme et conscience, puis grand bien leur fasse, et il y en a d'autres, c'est juste qu'ils ont pas l'information. C'est comme, ça fait des années que je fais mes courses dans une grande enseigne québécoise. J'ai aucune idée qu'à 500 mètres de chez moi, il y a une petite épicerie locale.
Le rapport de force n'est pas complètement...
C'est ça. Puis, on ne peut pas leur en vouloir à ces gens-là de ne pas le savoir. Ils n'ont pas l'information parce que l'espace publicitaire est occupé par ceux qui ont le plus d'argent.
Exactement.
Et là, c'est pour ça que, pour moi, il y a ce truc de la pub que je vois dans l'espace public. que je vois sur les réseaux sociaux, que je vois dans les moteurs de recherche, parce qu'on est soumis à peu près 3000 images publicitaires par jour, avec des actions commerciales qui sont à hauteur de 15 000 par jour, c'est énorme. Comme, tu sais, pourquoi ? Moi, j'ai le droit, en fait, de choisir ce que je vois là-dedans. Et on peut pas m'en vouloir derrière de dire « Ah bah, t'as pas, t'es comme, tu consommes pas correctement. » Bah ouais, mais donnez-moi le choix, en fait.
Concrètement, là, votre fonds, ça pourrait pas s'inscrire dans... Il y a beaucoup de fonds, là, de je sais pas comment on appelle ça, là, des fonds d'investissement, là, qui sont des fonds ESG, qui ont des critères ESG, de développement durable. Ça pourrait pas avoir, pourriez pas avoir tout simplement un partenaire qui crée le fonds, va chercher de l'argent, l'alimente, et vous en êtes un peu les gestionnaires, pas les gestionnaires, mais vous faites partie de la parce que ça va financer des projets, donc vous faites partie de cette décision-là, la table décisionnelle qui reçoit les projets puis qui décide, ben nous, on va investir dans ce projet-là ou ce projet-là.
Mais il y a un peu de ça, je ne les ai pas encore approchés, mais il y a un fonds d'investissement responsable qui a été créé il y a, il me semble, 2 ou 3 ans au Québec. C'est Investa, si je ne dis pas de bêtises.
Ah, il y en a plusieurs, l'investissement responsable. Je ne sais pas, en communication, comme... là, spécifiquement.
Ça, en fait, ça n'existe pas.
Ça ne peut pas exister, ça.
Parce que c'est comme, ouais, la communication, c'est... et la pub particulièrement, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Mm-hmm. Comme on ne va pas payer pour ça, t'sais, dans les subventions gouvernementales, c'est comme 10% maximum, allez, 15% si tu es chanceux, qui sont accordés au rayonnement de ta marque.
Et pourtant, c'est majeur parce que, tu sais, je regarde, il y a beaucoup de petites entreprises qui créent de beaux produits avec, bon, l'économie circulaire ou je ne sais trop. Souvent, ce qui leur manque, c'est un rayonnement. Et pour moi, si on finançait ces entreprises-là, parce qu'elles sont financées, elles reçoivent des subventions, ce serait tout à fait logique de leur donner une subvention pour que ça rayonne. Sinon, on jette de l'argent par les fenêtres. C'est le bout qui leur manque. Et je trouve ça tout à fait pertinent, moi, comme projet. J'espère qu'il y a des gens qui écoutent ce balado, qui auront...
Aidez-nous.
Mais donc, ben écoute, là, je comprends que vous êtes en réflexion. Tu vas digérer toutes ces données.
C'est un projet. On a intégré le programme Entreprisme de la base entrepreneuriale du HEC pour ça, en fait.
OK.
Pour réfléchir à comment la coopérative peut maximiser son impact et soutenir le plus de projets possible, en fait.
OK.
On verra, on va réfléchir, mais...
Bonne réflexion. Je te remercie beaucoup, Margot, de ta collaboration. D'abord dans le projet La Nouvelle Place, ton apport est inestimable. Bonne chance dans tes projets. Et puis, merci, ben, merci d'être venu aujourd'hui au balado. Donc,
merci, on
se tient au courant. Merci. Ben voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été là. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce balado qui est, ma foi, assez pointu. Donc, quand même, quand je vois qu'il y a, on n'est pas tant que ça, mais quand même, autour de 300, parfois 400 personnes qui écoutent cet épisode-là sur un projet qui est encore extrêmement embryonnaire. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose là. Il y a un intérêt qui est en train de naître. Et je veux souhaiter, en terminant, la bienvenue aux nouveaux participants de notre groupe. Sylvain Poisson, qui est directeur général d'Hebdo Québec. Bienvenue, Sylvain. Guillaume Bédard, qui est cofondateur de Médiatonic, qui est une régie publicitaire en ligne, à numérique. Je les connais pas encore beaucoup. Ils viennent tout juste de se joindre au groupe. Et Vincent Fradet, de zone911.com. Merci à vous trois de vous joindre à ce groupe. Si vous aussi, vous voulez participer aux discussions, aux échanges, donner peut-être de votre temps à ce groupe, être aux premières loges de la gestation de la nouvelle place, écrivez-moi, je vais vous inviter. En ce moment, on discute sur un serveur Discord, donc je vais pouvoir vous envoyer un lien Discord. Vous pouvez aussi simplement vous abonner au balado ou à l'infolettre. On se rend sur nouvelleplace.ca pour le faire. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire info@nouvelleplace.ca. Je m'appelle Steve Proulx. Le balado La Nouvelle Place est une production de l'agence de contenu 37e Avenue et je vous dis à très bientôt.